Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles, mardi 6 septembre 2022, sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo. On est en direct de la Maison de la Chimie pour le 9e speed dating immobilier d'Arkéa. On est ravis d'accueillir sur le plateau Bertrand Blanpin. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour.
Vous êtes président du directoire d'Arkéa Banque Entreprise Institutionnelle et on est également en compagnie de Sylvain Lévy-Valency, directeur des antennes de Radio Immo. Bonjour Sylvain.
Bonjour Fabrice, bonjour Bertrand.
Bonjour Sylvain.
Merci donc monsieur Blanpin d'être avec nous. La ville de demain est un projet collectif, ça, à n'en pas douter, le thème du jour avec un beau panel. Racontez-nous un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce speed dating, l'idée justement speed dating, c'est vrai qu'on connaît ça plutôt dans les applications de rencontre.
Et on le connaissait en 7 minutes, mais là ça dure quand même toute la matinée.
Mais là, vous avez décidé de mettre en commun, de faire rencontrer en fait les acteurs de l'immobilier.
Oui, alors je pense que c'est une spécificité d'Arkéa Banque Entreprise Institutionnelle d'accompagner bien évidemment nos clients dans leurs projets et notamment dans les projets de transition ESG, hein, qui est quelque chose d'important maintenant, hein, qui a pris encore plus de sens cet été. Et donc nous avons aussi comme spécificité de mettre en relation nos clients entre eux. Hein, je crois que nous sommes créateurs de liens historiquement et c'est comme ça que nous en sommes venus à mettre en place ce speed dating de l'immobilier et du logement. Alors ça fait, c'est la 9e édition, hein, ça fait une dizaine d'années que nous avons lancé cette manifestation qui s'est développée tout au long de ces 9 dernières années. Et c'est vrai qu'au début c'était sur des formats un petit peu plus courts, mais nos clients, nos partenaires, les personnes qui participent à ces événements nous ont incités à faire une première partie, on va dire, sur une thématique générale d'actualité, avec des plateaux relativement prestigieux, on pourra en reparler pour cette édition, et puis la partie échange et rencontre qu'on peut avoir dans une formule speed dating classique.
Alors justement, deux temps forts. Premier temps fort, c'est effectivement cette table ronde qui va avoir lieu dans quelques minutes dans l'amphithéâtre. Qui est au programme? Qui sont les têtes d'affiche ce matin?
Alors il y a de notre point de vue, il y a un très très beau plateau. Il y aura une première table ronde avec Benoît Paru, donc ancien ministre, hein, président d'Erige, Anne-Sophie Grave, la présidente de CDC Habitat, Julien Pemzec, Jacques Wolfrom, qui seront sur l'habitat inclusif et résilient. Ce qui est une thématique importante, hein, qui n'est pas neuve, mais qui prend encore plus son sens avec l'été que nous avons eu et puis avec les problèmes sociaux, entre guillemets, qu'on peut voir malheureusement de plus en plus. Et puis une deuxième table ronde avec Emmanuel Cosse, hein, aussi ancienne ministre, Pascal Bollanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Isabelle Le Cadenec, qui est la maire de Vitray, hein, on a une touche bretonne, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, donc de d'Île-de-France, qui interviendront sur les défis de la fabrique de la ville. Je pense que voilà deux sujets de table ronde avec des personnalités compétentes, hein, qui ont cette prise de recul aussi au travers de différentes fonctions qu'elles ont pu occuper. Et on aura une intervention aussi, alors vidéo, parce que c'est vrai que le calendrier des ministres est très chargé.
Très chargé, oui.
Olivier Klein, donc ministre du Logement, a tourné une vidéo pour s'adresser aux participants, mais aussi témoigner de sa sympathie au niveau d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle.
Alors, c'est vrai qu'il y a deux temps forts, hein, pour la rentrée immobilière. On va dire la rentrée même économique, il y a la REF, hein, la rencontre des entrepreneurs de France au MEDEF, à Longchamp, et le speed dating d'Arkéa, qui ouvre finalement la saison en quelque sorte. Vous avez conscience, Bertrand, que cette 9e édition, elle s'inscrit aujourd'hui dans le paysage des événements, et même de l'agora de rencontres, parce que vous avez dit une chose très juste, c'est que vous avez cette particularité chez Arkéa, c'est de créer finalement un couloir de rencontres dans lequel s'échangent des idées, Je voudrais qu'on revienne sur le fond. Effectivement, vous avez rappelé tout à l'heure, cet été, péniblement pour beaucoup, on a compris ce que voulait dire la transition énergétique et les problèmes climatiques. Sans fustiger effectivement l'habitat, la construction. Néanmoins, Bertrand, je voudrais avoir votre avis sur les chiffres assez inquiétants du volume de construction neuve aujourd'hui, avec des stocks, Pascal Boulanger en parlera certainement tout à l'heure, qui sont devenus alarmants puisqu'ils sont passés au-dessous de 7 mois. Hein, quand vous savez que pour reconstituer une œuvre, évidemment, il faut 2 ou 3 ans. Du point de vue du financeur important de la construction et de l'habitat dans ce pays, Bertrand, c'est quoi votre analyse aujourd'hui? Est-ce que tout est politique? Et la politique viendra éventuellement résoudre cette difficulté en boostant, en créant un choc peut-être, ou en simplifiant simplement la norme, ou bien en enjoignant peut-être les maires de mieux signer les permis de construire. On peut rêver. Hein, mais où effectivement, ne faudrait-il peut-être pas laisser peut-être plus de champ aux professionnels? C'est ce que notamment souvent Benoît Paru, à une certaine époque, avait préconisé, avec un moratoire sur la norme, comme qui est proposé d'ailleurs par la FPI, peut-être une analyse plus fine de la TVA immobilière pour peut-être la réemployer de façon plus intelligente. Bertrand Blanpin, qu'en pensez-vous?
Alors il y a forcément dans toute, entre guillemets, crise, il y a beaucoup de facteurs hein, qui se conjuguent. On met sur le fait que les permis ne soient pas signés ou soient signés avec des délais relativement longs, cette crise, on va dire, du logement, puisque les stocks sont relativement bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème pour les promoteurs. Je veux dire, ils vendent. Leur difficulté, c'est qu'ils ont, comme vous l'avez dit, ils ont moins de 7 mois de stock. Et donc, pour lancer de nouveaux programmes et proposer de nouveaux produits aux particuliers ou aux investisseurs, il va falloir 24, 36 mois. Et donc, on risque d'avoir une sorte de choc où l'offre va être inférieure à la demande. Et ça pourra comme conséquence, de toute façon, une montée des prix, en dehors de la crise économique, les matières premières, etc.
Rabattre un marché de primo-accession vers l'ancien qui déjà est très haut, où on a des difficultés à se loger en zone tendue, vous le savez, là, en location, en achat, ça devient impossible. En 20 ans, la primo-accession a pris 10 ans de plus. Oui. On accédait à la propriété entre 27 et 30 ans. Aujourd'hui, on accède à 38 ans, en moyenne, ce qui est considérable. Il y a une demande très soutenue, vous le savez, le problème, c'est pas la demande. On est d'accord, on a une très forte demande, une démographie de grande consommation. Est-ce que si, comme les promoteurs l'ont fait, on fait leur mue sur du béton bas carbone, sur de la turbois, sur une réduction drastique des effets logistiques, camions, toupies, etc., etc., on a l'impression que c'est pas suffisant pour les élus? Est-ce qu'il n'y a pas une équation difficile à résoudre entre des administrés qui font des injonctions à l'élu local en disant « je veux pas de grue, je veux pas de camion » et les mêmes qui finalement vont réclamer des logements pour leurs enfants ou pour eux-mêmes?
Oui, mais de toute façon, c'est un peu l'injonction paradoxale. Je pense que la société a évolué progressivement vers l'individualisme. On parlait que les maires bâtisseurs étaient des maires qui étaient battus aux élections. Hein. Ça, on a vu ça au début des années 2010, sur les élections de mi-2010, où beaucoup de maires qui ont construit, transformé leur ville, ont été battus parce que leurs administrés trouvaient qu'il y avait trop de logements, qu'il y avait trop de nouvelles populations, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est pour un maire. Construire, est-ce que c'est quelque chose qui est bien vécu par mes administrés ?
En fait, le maire a tout à perdre. Quand il
en fait, le maire a beaucoup à perdre. Peut-être pas tout à perdre, mais il a beaucoup à perdre. Alors après, il y a aussi le fait de savoir ce qu'on construit. Vous le disiez, Sylvain, c'est que maintenant aussi, les administrés font attention à ce qui est construit. Il faut que ce soit plutôt responsable en termes de construction. Donc c'est vrai que les ossatures bois sont des éléments importants. Des logements, on va dire, passifs sont des choses qui sont attachées. Il y a aussi une injonction paradoxale, c'est que sur la zéro artification des sols, il faut construire plus vertical, Or, on a dit pendant des décennies aux Français qu'on vivait très mal dans les immeubles de grande hauteur. Moi, j'ai vécu quand j'étais jeune. On trouvait ça bien il y a 40-50 ans, peut-être même un peu plus, parce que je suis un peu plus loin que ça. Mais pendant des décennies, on a dit qu'il fallait les supprimer, ces barres, c'était pas vivable. Il y avait une qualité de vie qui était pas bonne. Donc quand maintenant, on dit aux gens qui ont écouté ces messages pendant de nombreuses années qu'il va falloir reverticaliser, pour eux, dans leur inconscient, c'est pas bien. Donc c'est difficile aussi d'arriver à ça. Je pense qu'il y a des maires qui arrivent à trouver le bon équilibre. De toute façon, je pense qu'il faut en parler avec la population. D'abord, il y a un besoin de logement. On estime qu'il y a 500 000 logements il manque 500 000 logements en France, et que plus ça va, moins on construit. Donc, ça va s'accroître. Que la demande, elle est relativement forte. Que la demande est forte sur certains endroits. Par contre, il y a des endroits où, il y a plein de logements vacants. Ça, c'est le sujet d'aménagement du territoire. La politique a beaucoup à faire sur cet aménagement du territoire. Mais aussi, les promoteurs, ils le savent, ont beaucoup à faire aussi pour produire des logements différents, des environnements différents dans lesquels ils vont construire leurs logements, avec beaucoup de plantations, d'arbres, en fait, de verdir vraiment leurs opérations. Donc ils en sont conscients, mais c'est comme tout. On est au début d'une transition, il va falloir un peu de temps. Et ce temps est un peu perturbé aussi par les conséquences de la guerre ukrainienne, avec l'augmentation des matières premières.
Matières premières, énergie.
Énergie aussi, donc d'où construire des logements qui soient, plutôt tendent vers des logements passifs. Et donc c'est vrai qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés sur un laps de temps important.
Une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure de normes ESG, environnement, social, gouvernance.
Oui.
Bien sûr, en tant qu'institution bancaire, vous êtes hyper au taquet, on peut dire, sur le sujet, bien évidemment. Pourquoi c'est important que cette norme soit appliquée, soit adaptée dans un monde contemporain aujourd'hui qui pose question ? Vous et moi, on est de la même génération, on n'aurait pas imaginé il y a 35 ans quand je vous aurais dit on va progresser socialement, vous m'auriez dit est-ce qu'il y aura un conflit peut-être en Europe alors que l'Europe était en train de se construire, se consolider, vous m'auriez dit certainement pas. Et là on a quelque chose de particulier, une interrogation. Et pourtant quand même, parce que il faut rester résolument positif, on a quand même une économie qui se porte bien. On a des pans de l'économie, on a peine à recruter. Quand on est un financier, donc on a une analyse très fine de l'économie multisegment, comment on réagit à ça et pourquoi effectivement ces normes sont un signal positif, important dans un monde contemporain qui se questionne?
Peut-être en dehors de l'ESG, qui est devenu que trois axes regardés par les entreprises, mais aussi par l'externe de l'entreprise, les agences de notation, etc. C'est-à-dire que l'environnement est un sujet important. L'environnement, l'énergie est devenu un sujet important. Je pense qu'on a de jeunes générations qui sont très attentives à l'environnement, parce qu'on leur dit aussi que l'environnement se dégrade, que ce soit la faune, la flore. Sur le social, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la diversité. On parle souvent de mixité, mais aussi il y a la diversité. Faire en sorte que les gens plus âgés puissent accompagner les jeunes, que les gens plus âgés restent plus longtemps dans l'entreprise, etc. Donc il y a aussi cette diversité en termes d'expérience, d'âge, etc. Puis il y a le sujet de la gouvernance qui est un sujet important aussi, parce que quand on est dirigeant ou qu'on est administrateur d'une société, il faut la surveiller, l'orienter dans un sens positif. Et donc c'est pour ça aussi que de plus en plus d'entreprises passent sur le statut d'entreprise à mission. C'est ce qu'a fait Crédit Mutuel Arkéa cette année. Le groupe est devenu une entreprise à mission parce qu'il faut aller plus loin et donc se fixer des engagements importants, officiels, parce qu'une entreprise a un environnement à préserver, à dynamiser, à accompagner. en plus de ses collaborateurs, de ses différentes parties prenantes. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui pensent que l'entreprise a un rôle sociétal, environnemental important, et qu'il l'affiche, et que, entre guillemets, c'est transparent, et qu'en externe, on peut regarder ce qui est fait, l'étudier, entre guillemets, l'apprécier, positivement ou négativement. Mais il y a un souci aussi de transparence. Donc les entreprises, de plus en plus, prennent à leur compte le fait que ce sont un acteur, pas qu'économique, mais un acteur des territoires. Et je pense que c'est un phénomène qui est lancé, qui va s'amplifier, parce qu'il correspond à un besoin de la société de connaître, hein, d'avoir de la transparence, mais aussi de partager des objectifs communs.
Une dernière question, c'est sur l'actualité économique. La BCE qui va sortir l'artillerie lourde, hein, je m'adresse aux banquiers, car Banque Entreprise Institutionnelle, vous suivez évidemment ça de très près avec ce contexte d'inflation. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que ça pourrait faire un choc cassé la dynamique qu'on a connue, notamment dans le secteur immobilier, d'avoir des taux qui grimpent comme ça très brutalement?
Alors, déjà au niveau macroéconomique, l'inflation, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose d'important, de négatif, et que la BCE, comme la Fed, la Réserve fédérale américaine, essaye de casser cette spirale infernale de l'inflation. Hein, parce que l'inflation, c'est la richesse qui disparaît, c'est des gens modestes qui se retrouvent encore plus en difficulté, c'est une paupérisation qui peut s'accélérer, etc. Donc sur la partie macroéconomique, il faut vraiment casser l'inflation. On ne peut pas dire qu'il y a de la bonne inflation, etc. Enfin, surtout
je vois le
discours. Parce qu'on peut dire l'inflation, c'est pas grave, etc. Enfin, l'inflation, on ne sait pas à quel moment c'est positif. C'est comme le cholestérol, quel est le bon, quel est le mauvais. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas si j'ai du bon, si j'ai du mauvais. Globalement, il faut faire attention. Donc c'est la même chose au niveau de l'inflation. Donc la BCE, maintenant, a bien compris que l'inflation, ce n'était pas conjoncturel. C'est du structurel et qu'il faut casser cette mécanique entre guillemets infernale. Après, sur les taux, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre. C'est la période précédente qui était anormale. Les taux négatifs, c'était jamais arrivé. C'était quelque chose de complètement anormal. Moi, quand j'ai fait mes études, entre autres économiques, on n'a jamais appris que les taux ils pouvaient être négatifs au niveau macroéconomique. Quoi. Donc,
on ne payait pas les gens pour emprunter, effectivement.
cette période-là, elle était anormale. Alors c'est vrai que ce qui a surpris et qui a surpris tout le monde, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi fortement, mais la guerre ukrainienne a accéléré ces choses, c'est la remontée brutale des taux. Hein, c'est-à-dire que on a remonté au premier trimestre très très rapidement, on a pris plus de 100 points de base. Donc c'est énorme. Et puis on s'en est repris 100 points au deuxième trimestre. Donc c'est plutôt la remontée des taux brutale qui fait que ça crée un choc.
Et qui n'était pas prévisible.
Et qui n'était pas prévisible. Hein. Et alors que, regarde les taux actuellement. Si on se met 10 ans en arrière, les taux qu'on a actuellement, tout le monde les trouvait super bien il y a 10 ans.
Hein. Je crois qu'on avait atteint à une époque. Dans les années 90, on était à 14 ou 16%.
Dans les années 80 et début 90, et même au début des années 90, on empruntait long moins cher que les placements qu'on pouvait faire à court terme.
Mais oui, voilà.
On a eu des périodes un peu anormales. Mais c'est vrai que les taux actuels en valeur absolue, on ne peut pas dire que ce soit des taux
Donc vous ne craignez pas qu'il y ait une récession, que ça s'étende à...
Si, il peut y avoir une récession, parce que quand on commence à essayer de juguler l'inflation, forcément, ça casse la croissance économique.
Justement, avec l'immobilier, la construction, et on voit effectivement poindre... On a presque l'impression qu'on a sifflé la plein de la récré, quelque part. Parce que vous avez raison, on a vécu quand même, il faut le dire, 10 années, vous êtes d'accord, Bertrand, exceptionnel.
Oui, tout à fait.
Et une richesse considérable qui s'est accumulée. C'est irréversible, l'état de récession, là, dans les 2-3 ans qui viennent. Si on est réaliste, sans être pessimiste,
c'est-à-dire qu'on va être sur des croissances moins élevées. Le consensus commun, c'est que c'est sûr que la croissance ne va plus être aussi forte que ce qu'on avait jusqu'à présent. La récession, je pense que tout le monde va essayer de l'éviter. la BCE va faire en sorte, et la Fed essaye de faire en sorte que de qu'il n'y ait pas de récession, hein, parce que inflation et récession, c'est stagflation, donc c'est pas bon du tout, c'est pire. Mais voilà, ça va être vraiment au cordeau, faire en sorte que l'inflation ne monte pas trop. Et que, on soit à zéro plus en termes de croissance. Donc c'est vrai que la période, elle va être un petit peu plus compliquée. Elle est encore très incertaine parce qu'il y a des éléments qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en compte. La guerre, la partie accès à l'énergie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprécier. Ouais, donc c'est assez nouveau aussi pour tout le monde. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que, en dehors de l'immobilier, c'est que je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise. Hein, j'en ai encore vu quelques-uns hier. Il y a encore un moral relativement positif des dirigeants d'entreprise qui, d'abord, on a connu la pandémie, donc il y a une certaine habitude à que on soit dans un contexte un peu difficile. Donc, ils ont des envies d'investissement, ils ont des projets. Nous, sur le premier semestre, on a fait un premier semestre exceptionnel en termes de crédit. Donc la demande est là, les projets sont là. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais on a des dirigeants d'entreprise positifs. Et à la rigueur, les dirigeants d'entreprise nous parlent plus de leurs problèmes de recrutement que de leurs problèmes de développement. Voilà.
Je regardais les chiffres hier de ce qu'on appelait la Great Resignation aux États-Unis. C'est 47 millions de départs. 47 millions de départs.
La grande démission.
Ouais, 47 millions de personnes qui ont quitté leur CDI, qui ont corté leur contrat. Il y a vraiment une transformation anthropologique. Merci beaucoup, Bertrand Blanpin.
Merci.
On est ravis d'être
de
avec
votre
vous
accueil.
Pour cette 9e édition. Et d'ailleurs, je l'annonce, puisqu'on repart ensemble avec vous, Bertrand, sur le Tour de France de l'immobilier, avec le groupe Nexity National, le Conseil supérieur du notariat, le groupe Elio pour l'énergie, et bien évidemment avec Arkea. Pour justement parler aux élus locaux et leur demander effectivement à la fois de rendre attractif leur territoire. Voilà, 9e édition du Speed Dating. On est avec vous toute la matinée pour faire part des temps forts de cette matinale. Merci Bertrand Blanpin.
Merci pour votre accueil.
Le Speed Dating de l'immobilier, organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, mardi 6 septembre 2022 sur Radio Immo.